8h23 minutes en ce jeudi matin. Vous êtes bien branchés à Boulevard 102.1 Rage Against le matin. Jusqu'à 10h, c'est toujours un plaisir de jaser avec Pascal Paradis, qui est député de Jean Talon pour le Parti québécois. Elle est au bout du fil. Monsieur Paradis, bon matin.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très, très bien, vous?
Ça va bien.
Toujours un plaisir, M. Paradis. Merci d'être là. Disons-le, manque pas de sujet, pas pantoute. Commençons avec la faillite de Northvolt. Est-ce, selon vous, le résultat de la pire décision économique de l'histoire du Québec?
C'est une très mauvaise gestion gouvernementale de toute cette histoire-là. D'abord, comment se fait-il là, qu'on se retrouve de cette façon-là aujourd'hui là, avec rien? 470 millions de dollars qui ont été investis dans la maison mère en Suède. C'était en vertu de quel plan? Quelle planification? Comment on a négocié les ententes? Comment se fait-il que le Québec soit le seul à avoir investi de l'argent public sans garantie dans la maison mère en Suède? Remarquez que le gouvernement canadien, lui, n'a même pas fait ça. Alors, c'est sûr qu'on s'est précipité, ça s'est passé très vite, je l'ai répété souvent, là, selon les informations qu'on a. L'ancien ministre Pierre Fitzgibbon a rencontré les gens de Northvolt en février 2023. En mars 2023, le projet était déjà lancé dans l'appareil gouvernemental. Là, il y a eu l'été, imaginez-vous, puis tout était signé, puis tout était annoncé au mois de septembre 2023. Alors, on n'a pas fait des vérifications diligentes, on n'a pas bien négocié les ententes. Et surtout, le premier ministre du Québec et la ministre Fréchette ont affirmé, ont juré à de vraiment nombreuses reprises que cet argent-là était garanti, qu'il n'y avait pas de problème, que s'il se passait quelque chose, on récupérait l'argent. On avait des usines en Suède en garantie. C'est le premier ministre qui a dit ça à l'Assemblée nationale. Vous voyez aujourd'hui que ce n'est pas vrai. 470 millions d'argent des Québécois perdus. Et c'est pas terminé parce qu'on dit, il y a un terrain qu'on a acheté pour Northvolt à 240 millions au Québec. Combien vaut-il aujourd'hui ce terrain-là?
Monsieur Paradis, est-ce que justement l'arrêt du projet Northvolt, ça fait en sorte qu'il faudra reporter le fameux échéancier de 2035 pour l'achat de véhicules uniquement électrique, parce que là, on le voit mondialement, c'est difficile, autrement, la conception des batteries et les ventes de véhicules électriques diminuent avec le retrait des subventions gouvernementales.
Il va falloir regarder ça de près, parce que un gouvernement qui est pragmatique, il regarde la situation en face, il se demande, est-ce qu'on est encore capable d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés? Actuellement, vous avez raison, le marché ne suit pas les prévisions qui avaient été faites il y a quelques années. Donc, c'est sûr que c'est une question qui va nécessiter d'être revue, parce que ça arrive vite, là, les dates qu'on s'était fixées au départ.
Monsieur Paradis, est-ce que Northvolt au Québec, c'est encore viable si on a de nouveaux investisseurs?
Il est très tôt pour se poser cette question-là aujourd'hui, parce que d'abord, le Québec dit que la ministre a exprimé sa tristesse hier et elle a dit on va espérer que le syndic va être capable de trouver des solutions. Elle avait dit elle-même qu'on serait à la table puis qu'on serait décisionnel s'il y avait des problèmes. Ce n'est pas le cas. Donc un syndic de faillite, là, pour que les gens sachent bien, c'est quand l'entreprise dépose son bilan, quand elle fait faillite, c'est mis dans les mains d'un tiers qui gère la faillite, qui décide qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste dans la compagnie. Alors, le gouvernement du Québec, il est spectateur actuellement. Est-ce que le projet a des chances de continuer ici au Québec? On ne le sait pas au moment où on se parle. Et d'ailleurs, il y a très peu d'informations. C'est difficile, même pour des gens comme moi qui suivent de très près le dossier, c'est difficile de se prononcer parce que depuis le début, on a très peu d'informations. On n'a pas eu accès aux ententes, aux contrats qui ont été signés. On a très peu. Quand on demande de l'information, là, on nous envoie des documents caviardés. Ça veut dire qu'ils sont barré en gros noir d'une page à l'autre. Donc, c'est difficile de répondre à votre question aujourd'hui. On ne souhaite pas le pire pour le Québec, mais actuellement, le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ, semble nous avoir conduit vers la solution du pire.
Est-ce que le Parti québécois aurait pu se faire prendre, il y a quelques années, à investir du genre dans une compagnie comme Nordvolt? Parce que il y a un tweet qui est ressorti ce matin par Éric Duhaime où Paul Saint-Pierre Plamondon écrit qu'investir dans les énergies renouvelables, notamment dans l'électrification des transports, c'est une nécessité, puis le Québec peut et doit être un fer de lance dans ce domaine-là. Fait que si on suit cette ligne de pensée-là, le Parti québécois au pouvoir aurait pu investir d'une façon semblable dans une entreprise comme Nordvolt dans le but de devenir un modèle dans le but d'être avant-gardiste dans ce domaine-là. Est-ce que ça aurait pu arriver? Puis est-ce qu'aujourd'hui, on serait capable de dire « Ouais, ben on l'a essayé, puis ça n'a pas marché, on passe à autre chose? »
Mais il n'y a personne qui prétend que le gouvernement du Québec doit pas poser des actions pour que notre économie se positionne avantageusement, notamment dans des nouvelles filières. Il y a un principe là qui fait que le gouvernement du Québec peut jouer un rôle de catalyseur. Mais là, il y a des conditions à respecter. Puis ça dépend de ce que le gouvernement en place va faire. Par exemple, nous, au Parti québécois, on dit pourquoi on investit toujours dans des entreprises étrangères puis qu'on est prêt à leur donner des centaines de millions, mais qu'on fait pas aussi confiance à nos PME. Nous, on dit c'est à nos PME, nos entreprises québécoises, nos jeunes pousses d'ici, qu'il faut faire d'abord et avant tout confiance. Deuxièmement, si on décide d'investir, à quelles conditions on investit? Quelle planification on a faite? Quelle vérification diligente? Quelle analyse des risques? Quel contrat on a négocié? Ça se place dans quelle stratégie? Est-ce que c'est au gré de l'instinct d'un ministre, du pif d'un ministre, qui distribue, sans qu'on le sache trop pourquoi, des centaines de millions à des entreprises souvent étrangères, où on le fait en vertu d'un plan. Donc, il y a plusieurs conditions qui se posent. Ça ne veut pas dire que le gouvernement doit absolument rien faire. Ça veut dire qu'il doit bien travailler. Et ça n'a pas été le cas parce que on parle de Nordvolt aujourd'hui, mais regardez, là, il y a Recyclage Varenne qui est sorti encore cette semaine, un autre 435 millions de dollars dont on se demande, mais pourquoi il a été investi là? Pourquoi il a été investi là? On en a trouvé pour des milliards de dollars où on se demande quelle était la stratégie? Qu'est-ce qu'on a négocié? Pourquoi on a favorisé des entreprises étrangères plutôt que les entreprises de chez nous? Et je vous le dis tout de suite, surveillez ce qui se passe pas plus loin qu'ici dans la région de Québec. Alors que le gouvernement de la CAQ vient d'annoncer qu'elle a donné 50 millions de dollars à une compagnie étrangère qui gère très mal le Mont-Saint-Anne depuis 20 ans, qui l'a laissé dépérir, plutôt que de faire confiance à des gens de la place qui ont levé la main et qui disent « Nous autres, on est capable de s'organiser ». Alors, vous voyez, ça se continue.
Ouais, on comprend bien la différence entre l'approche du PQ et l'approche de la CAQ. Parlant justement d'approche, François Legault, quel est son degré de responsabilité dans Nordvolt présentement? Il se cache derrière une enquête publique qui sera lancée pour sa clique. Mais dans Nordvolt, quel est son degré de responsabilité selon vous?
Ah, il est l'un des principaux acteurs de toute cette affaire-là avec la ministre Richette. Qui aujourd'hui aussi a pris fait et cause pour la stratégie gouvernementale dans ce dossier-là.
François Legault, plus responsable que Pierre Fitzgibbon ou c'est Pierre Fitzgibbon le grand responsable en premier lieu?
Mais ça va comme c'est mené. C'est le premier ministre du Québec là qui est le chef du gouvernement. Et quand il était le temps de faire des annonces, il a accepté là, qu'il était très content d'avoir les projecteurs braqués sur lui, puis sur le fait qu'il l'a annoncé comme le plus grand investissement privé de l'histoire du Québec. Il nous a annoncé un chantier équivalent à la baie James, la future baie James. Ben la baie James, c'était planifié, c'était analysé, puis on se faisait confiance à nous. On investissait dans nos entreprises, dans notre capacité, puis on est devenu un géant aussi, évidemment, en production hydroélectrique. Alors aujourd'hui, ben le premier ministre doit accepter aussi la responsabilité des pots cassés. C'est l'heure des comptes. Les Québécois ont raison de poser des questions et ont raison de se dire pourquoi on n'a pas eu l'information, pourquoi vous nous avez donné de fausses informations. Je vous le redis, le premier ministre lui-même et la ministre Fréchette nous ont répété tellement de fois, y compris à l'Assemblée nationale en chambre, l'argent des Québécois est garanti, ne vous inquiétez pas, on a été prudent, on a fait une super bonne négociation. Ce n'était pas vrai.
Monsieur Paradis, est-ce que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, prend trop de place dans les négociations avec les États-Unis?
Ben, lui, il essaie de jouer ses cartes. Moi, ce que je remarque, c'est que la soi-disant unité canadienne, c'est un leurre, c'est un mythe, ça ne fonctionne pas du tout. Actuellement, c'est chacun de son côté. Le premier ministre Doug Ford prend des décisions qui ont un impact sur le Québec sans qu'on soit consulté. Là, il est à Washington avec une délégation du gouvernement fédéral. Nous, on est nulle part dans le portrait. Puis là, on peut parler après ça de Daniel Smith qui a eu sa stratégie, des premiers ministres des Maritimes qui ont leur stratégie, des premiers ministres des Prairies qui ont leur stratégie. Il n'y en a pas d'unité canadienne actuellement. Et le mythe de la protection, là, du bouclier canadien qui protège le Québec dans des situations comme celle-là, c'est effrité là, de façon absolument spectaculaire dans les dernières semaines. Est-ce que le fait d'être dans le Canada nous a protégé le Québec de la menace tarifaire? Non. Est-ce que ça nous a permis d'avoir une position privilégiée diplomatiquement pour négocier? Non. Notre premier ministre, quand il est allé à Washington, il était obligé d'embaucher un lobbyiste pour rencontrer des adjoints de consultants du bureau du président américain. Imaginez donc. Est-ce que la gestion de la frontière a fait en sorte que ça n'a pas donné prise à l'administration Trump pour prendre cette excuse-là pour imposer des tarifs? Non. Alors actuellement, ce qui se passe démontre le piètre positionnement du Québec. Puis ben on voit que notre premier ministre, lui, ben il continue à appeler à une stratégie canadienne. Nous, on avait appelé à la formation d'une équipe Québec qui n'est toujours pas en place. Alors qu'il y en a une en Ontario, il y en a une dans les autres provinces, il y en a une au Canada, il n'y en a toujours pas au Québec. C'est le gouvernement là, qui gère ça lui-même, avec très peu de transparence. Et on avait appelé à plusieurs autres éléments stratégiques aussi, notamment une vraie stratégie d'appui aux PME pour faire face à la situation. On n'a toujours pas ça. On a appelé à des missions commerciales intensives parce qu'il y a d'autres pays qui disent « Hey, on voit ce qui se passe, on est prêt à faire des affaires avec vous, ça s'est toujours pas passé ». Alors, positionnement malheureux du Québec actuellement dans cette histoire-là.
Vous parlez d'équipe Québec, vous nous en aviez parlé la dernière fois, qui regrouperait des élus de tous les partis politiques, puis également des gens d'affaires. Est-ce que François Legault aime trop les Kodak, puis ne veut pas laisser de place aux autres, et c'est pour ça qu'il gère la guerre tarifaire de cette façon-là, à présent?
On l'a vu au début, il a tenté d'utiliser cette crise-là comme à l'époque de la pandémie. Le premier ministre, là, puis le gouvernement protecteur qui est là pour tout le monde, c'est ça qu'il a tenté de faire. Puis regardez les messages, tous les députés, tous les ministres se sont mis à écrire la même chose. Ah, on doit se réunir sous la figure paternelle du premier ministre. Mais on a été plusieurs à dire non, on ne répétera pas les mêmes erreurs de la pandémie. Ça prend un gouvernement qui, oui, nous réunit, mais qui rend des comptes puis qui est transparent. C'est pas ce qui s'est passé. C'est encore une fois un gouvernement qui dit une chose et qui fait le contraire. Le premier ministre a fait un discours solennel à l'Assemblée nationale, où il disait « Je tends la main à tous les députés et à tout le monde. »
Oui, il était ouvert à toutes les idées.
Mais jamais. Nous, on a écrit des lettres, on a fait des propositions. Les autres partis d'opposition aussi, d'ailleurs, on a appelé à se mettre d'accord tout le monde pour nommer un négociateur en chef, qu'on parle d'une seule voix, qu'on se rencontre. Et le premier ministre a même pas répondu à ces appels-là. Les travailleurs, là, dans les usines actuellement, là, c'est une partie importante des parties prenantes qui sont touchées. Les syndicats n'arrivent toujours pas, les représentants des travailleurs n'arrivent toujours pas à communiquer avec le gouvernement là-dessus. Alors, il n'y en a pas d'équipe Québec. Je peux vous dire qu'il y en a une en Ontario, là, où ils se parlent, puis voyez ce que le premier ministre, ce que le premier ministre Justin Trudeau avait fait aussi au début. Il a dit, ben, je vais convoquer les chefs des autres partis, puis on va discuter ensemble de la stratégie. Donc, c'est encore une fois un gouvernement de la CAQ qui décide de faire cavalier seul alors qu'il dit qu'il a la main tendue, mais c'est pas vrai. Il n'écoute pas, puis il n'en fait qu'à lui-même. Puis il y en a des bonnes propositions qui sont faites de beaucoup de monde, de beaucoup d'experts. Puis regardez, là, ça a fait beaucoup de gaffes, là, comme d'aller à Washington pour offrir de tout renégocier au pire moment, là, de dire « Ah, on va ouvrir, tiens, ça va mal, mais là, on va ouvrir tout l'accord de libre-échange. » Puis, ah, en passant, je suis déjà prêt à vous faire des concessions importantes sur le bois, sur l'aéronautique, puis sur l'aluminium. C'est épouvantable. Ouais.
Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois. Monsieur Paradis, toujours un plaisir. Merci pour votre temps encore une fois ce matin.
Plaisir partagé. À très bientôt.
À bientôt.
Salut.
Ciao. Salut.
Pascal Paradis du Parti québécois.
Toujours très clair les propositions que lance Pascal Paradis. On peut être pour le PQ, voter pour eux, ne pas voter pour eux, mais j'adore de la façon qu'il l'explique très clairement, puis très rapidement pour un politicien. Là, je vais me permettre un petit commentaire, ce qu'il a en tête, puis comment il ferait les modifications. J'ai adoré sa réponse à la question de Max sur... Paul Saint-Pierre Plamondon, il avait tweeté qu'il fallait justement développer des nouvelles économies. Pourquoi, tu sais, François Legault, ses planteurs, il fait la même erreur, puis il expliquait justement, c'était très clair, comment le processus aurait été différent au niveau du PQ.
J'ai des félicitations à faire.
OK.
Pierre Fitzgibbon a un nouvel emploi.
Ah oui?
C'est
oui.
sorti dans les dernières minutes. Wow. Il est de retour dans la filière des batteries.
Non!
Je lisais dans la presse qu'il devient conseiller d'Ariane Phosphate, qui est promoteur d'un projet pour transformer un composé que l'on retrouve dans une famille des batteries lithium-ion.
Il n'a pas acheté Northvolt, là.
Non, okay. mais...
Je pensais que c'était ça que tu allais nous annoncer.
Non,
Pierre
non,
Fitzgibbon sort Northvolt de la faillite et va l'installer au Québec en bonne poignée de main avec son grand chum Legault. On va réussir.
Fitzvolt.
Il aime ça, ça veut dire la filière batterie.
Fitzvolt.
On change ça à Fitzvolt.
Ah, ça arrête. Solide, ça.
OK. Eh bien, merci, Max, pour. OK. Bien, félicitations et bravo et bonne continuité à M. Fitzgibbon.
Ben oui.
Courte pause à Rage Against le matin. Ensuite, en studio avec nous, le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez. Et on vous gâte avec des billets avant la mise en vente de lundi. Des billets pour Deftones au Centre Vidéotron. Jusqu'à